Bonjour à tous, vous êtes sur Fréquence Mistral et nous accueillons François Malabave qui est accompagné d'une classe de lycéens.
Oui, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et effectivement, une classe du lycée des métiers Louis-Martin Brest, je suis ravi de les recevoir. C'est la classe de seconde bac vente et tout simplement parce qu'ils ont réalisé un travail sur l'information et la presse. Je suis moi-même intervenu dans leur lycée pour une rencontre fructueuse et j'y ai croisé des jeunes motivés et intéressé par le monde de l'information. Une organisation qui a été réalisée grâce à Farida Mazout, qui est à nos côtés. Bonjour Farida.
Bonjour.
Vous êtes leur professeur de français. Et tout à l'heure, j'aurai le plaisir de recevoir Élodie Keller, qui est documentaliste de l'établissement et qui nous a aidés et aussi à préparer cette émission. Première question qui s'adresse à vous, Farida, c'est vous qui allez partir au feu la première. Pourquoi avoir travaillé sur la presse avec vos élèves qui sont, je le rappelle, des élèves de seconde vente.
Alors, on a effectivement travaillé sur la question du journalisme. On s'est posé différentes questions. Quel besoin de s'informer? Quel est le travail du journaliste? Comment se construit l'information? Bien sûr, alors dans ce cadre, nous avons travaillé sur des textes, comme par exemple la charte d'éthique de la profession, sur des images de presse également. Les élèves eux-mêmes ont réalisé un journal de classe. Mais quoi de plus concret, en fait, que de venir rencontrer un journaliste et venir soi-même essayer de donner des éléments de réflexion dans une radio en direct? Alors, le projet, il est né donc de cette volonté. Les élèves ont tout de suite été inquiets, mais motivés, notamment parce qu'il s'agit d'un projet responsabilisant et peut-être également une expérience unique dans une vie.
On verra ça dans un instant avec les interventions de vos élèves, des élèves qui ont bien travaillé visiblement, en plus sur le thème des discriminations.
Complètement, oui. Effectivement, le choix de ce sujet, en fait, a découlé bien souvent de leur histoire. C'est un sujet qui a été choisi par certains et adopté par tous très rapidement. Il a également fait l'objet d'un article dans le journal de lycée, dont ils sont les auteurs. Voilà, et c'est un sujet qui est en lien, en fait, avec leur programme directement d'enseignement moral et civique. Ils ont effectivement cette question à leur programme.
Normalement, quand on est prof de français, on parle de Victor Hugo, on parle de Flaubert. Et là, vous avez parlé de la presse et vous avez parlé de phénomènes de société. La discrimination, par exemple, à l'embauche ou alors le harcèlement sexuel, des choses comme ça. C'est pas tout à fait votre rôle, normalement?
Oui. En quelque sorte, oui, un peu. C'est quand même une question directement liée à la citoyenneté, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve, quel que soit le sujet étudié, effectivement. Ils sont citoyens. Ce sont de futurs citoyens qui vont voter un jour et faire preuve d'autres actes de citoyenneté. Et il est important qu'ils soient au fait de différents sujets. Comme celui-ci.
Je peux apporter mon grain de sel, effectivement, pour avoir participé à une réunion avec vos élèves. Et effectivement, j'ai trouvé les questions remarquables de pertinence et en même temps de fraîcheur. Et donc, je leur ai dit d'ailleurs à ce moment-là, c'est la France de demain qui nous rejoint et c'est une belle France qui est là. Le premier qui va se coller à cet exercice et il aura beaucoup de mérite, c'est Florian. Bonjour Florian.
Bonjour.
Il faudra bien parler en face du micro, s'il te plaît.
D'accord.
Florian, alors, toi, tu vas nous présenter de manière générale le travail que vous avez fait en classe.
C'est ça. Donc, je vais vous présenter en fait le thème de la discrimination. Donc nous, on est directement touché par ça, en fait, grâce au lycée. On a fait comme un sondage, en fait, entre guillemets. Et donc sur 11 élèves, 7 de notre classe, notre groupe, ont subi ou subissent encore des remarques discriminatoires telles que sur le poids, l'origine culturelle, la taille, le handicap ou bien même l'orientation sexuelle. Après avoir étudié le sujet, nous avons recensé plusieurs types de discrimination, en fait, que mes camarades vont vous détailler. Le cyberharcèlement, la religion et le handicap. C'est trois gros points, en fait, que mes camarades, du coup, vont aborder après. Donc, il peut s'agir de harcèlement moral, comme des insultes ou des menaces, ou d'agression physique chez un ou plusieurs individus, parfois différenciés à cause de leur couleur de peau ou quelque chose d'autre. Par exemple de la religion, la sexualité ou autre, comme les capacités physiques ou mentales de chacune des personnes.
C'est des sujets dont vous étiez conscient avant de travailler là-dessus.
Avant de travailler, oui, j'étais conscient, mais le fait de le travailler, ça, comment dire, j'étais plus informé sur ce sujet-là du coup. Ça m'a permis de découvrir des choses dans ce domaine-là que je savais pas avant du coup.
Peut-être aussi de découvrir des camarades au sein de la classe, hein, de créer un groupe de réflexion sur les discriminations.
Ce sujet, oui.
Est-ce que tu as fini, Florent ?
Les peines d'harcèlement, pour en parler vite fait, elles sont passibles de 3 ans d'emprisonnement ferme, 45 000 euros d'amende, ou alors 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende selon la gravité de la discrimination.
Donc c'est vrai que c'est important de rappeler que c'est un délit aussi, c'est important. Merci beaucoup Florian d'avoir commencé et puis de t'être attelé à cette présentation. Anthony qui est à côté. Anthony, bonjour.
Bonjour.
Alors toi, tu traites plus particulièrement du cyberharcèlement.
Oui, c'est exact.
Explique-nous ce que c'est.
Alors le cyberharcèlement, c'est une forme de harcèlement conduite par divers canaux numériques. Il peut prendre différentes formes, comme la création de faux profils, la diffusion de rumeurs fausses, ou encore l'envoi de messages d'insultes. Le cyberharcèlement et le harcèlement traditionnel ont de nombreux points communs, seule la forme change, puisqu'il s'agit d'agressions répétées sur le long terme envers un individu dans le but de nuire à celui-ci, mais diffusées par des moyens de communication numérique, donc par Internet, ou par les réseaux sociaux. Seulement, avec les réseaux sociaux, les informations sont plus rapidement conservées, peuvent facilement être conservées ou se propager rapidement. Parce que beaucoup de monde les utilise, donc beaucoup de monde peut les voir aussi.
Ça va très vite.
Oui, ouais, c'est ça. L'anonymat et l'absence de face à face sont deux caractéristiques propres au cyberharcèlement. Parce qu'on ne peut pas voir en fait la personne en face, donc on ne sait pas qui elle est, ni si c'est son vrai prénom. Voilà. Chaque internaute peut laisser des traces sur l'internet ou peut devenir victime de ce phénomène. Pas que les enfants. Mais les adultes, les personnes âgées, tout le monde peut être victime de cyberharcèlement.
Ou les adolescents.
Oui, aussi les adolescents.
Les personnes de ton âge.
Oui, voilà, c'est ça.
Oui.
Le premier à avoir évoqué ce phénomène est Bill Beasley en 2003. C'est un professeur canadien et en a donné la définition suivante, la cyber-intimidation, maintenant que ça s'est transformé en cyberharcèlement. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour adopter délibérément, répétitivement ou de manière agressive un comportement à l'égard des individus ou d'un groupe à l'intention de provoquer des dommages à autrui. Voilà.
Un sujet important parce que c'est vrai que c'est nouveau. L'utilisation du numérique dans ce domaine-là est relativement récente, tu l'as dit, en 2003, donc les premières constatations. Et ça concerne beaucoup, effectivement, les utilisateurs des Facebook, Twitter et tout le reste et tous les méfaits que ça peut générer. Je sais qu'avec votre classe, vous avez travaillé notamment sur les fake news. On n'est pas très très loin là du cyberharcèlement avec des images et des idées qui sont fausses. Farida, vous avez mis le doigt sur justement la fragilité des réseaux sociaux et d'Internet.
Oui, complètement. Et puis sur le fait qu'il faut effectivement, de toute façon, toujours croiser les informations et que beaucoup de choses peuvent circuler. Voilà, il ne faut pas prêter attention effectivement à ce qu'on peut lire, entendre, voir sur certains réseaux sociaux. Alors ça, les jeunes d'aujourd'hui, en fait, n'ont pas forcément toujours conscience de ce fait. Mais on travaille, on y travaille.
Et il faut leur ouvrir un petit peu les yeux et dire attention, il ne faut pas gober n'importe quoi.
Complètement, oui.
Et je sais qu'avec Elodie Keller, vous avez diffusé un film avec un sondage qui a permis effectivement d'ouvrir les yeux dans ce cadre-là. On va rester dans le domaine de la discrimination, et une discrimination très, très particulière puisqu'elle est liée au handicap. Et c'est Anaïs qui s'est intéressée à ce sujet. Bonjour Anaïs.
Bonjour. Donc moi je viens parler de la discrimination sur le handicap. Donc personnellement j'ai choisi ça parce que j'en ai subi et j'ai mon entourage aussi qui en subissent. Donc j'étais déjà un peu au courant mais pas autant parce que j'ai appris qu'il y avait une loi qui était passée le 11 février 2005. Donc après si vous voulez j'ai aussi le titre de la loi qui est puni par la loi du coup. Donc c'est l'égalité des droits et des chances de la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc, le handicap, depuis, on a pu faire un sondage en 2014. Donc, la réclamation de défendeurs des droits en matière de discrimination, ils ont pu constater qu'il y a 20% des réclamations. C'est la deuxième place après l'origine.
Donc après l'origine, il y a le handicap pour 20%.
Oui. C'est un sujet qui est particulièrement beaucoup touché au niveau des discriminations. Et c'est souvent que les gens peuvent, sans le vouloir, nous discriminer par rapport au handicap.
Est-ce que cette réflexion au niveau de ta classe, quoi, dans un milieu qui est clos quand même et qui a une certaine cohérence, est-ce que ça t'a ouvert les yeux aussi, comme tout à l'heure on parlait des fake news?
Oui. Oui, ça m'a ouvert les yeux parce que... Oui, ça m'a ouvert beaucoup les yeux par rapport au handicap ou par rapport...
Ben, à la fois, oui, par rapport à notre société aussi qui doit faire des efforts et en même temps, notre société qui punit ce genre de délits aussi et ces discriminations. C'est le seul moyen qu'on a de pouvoir sanctionner une personne qui dit « Ah ben lui, il est gros, lui, il a qu'à marcher. Hein. » Non, il est en fauteuil roulant, c'est comme ça, il faut respecter. Et le droit à l'accessibilité, c'est important aussi dans notre société. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir réfléchir à ces questions à plus forte raison si on n'est pas concerné par le handicap aussi, parce que chacun d'entre nous peut, du jour au lendemain, être handicapé. Ouais. Et à ce moment-là, la vie bascule et il faut s'adapter. Et c'est là où on se rend compte que la société a des devoirs envers tous les citoyens. On va faire une première pause musicale et on va justement écouter un chanteur handicapé. Hein, ça vous va? Il s'agit bien sûr de Grand Corps Malade, qui est un grand monsieur et qui nous chante ses dimanches soirs. À tout à l'heure.
Qu'avec toi le temps a pris de nouvelles dimensions, que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction, parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar, parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir, parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments, et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment, parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite, s'habitue trop, et que moi je sais que mes deux mains ne se lasseront jamais de ta peau. Quand je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que 10 ans c'est tellement long, et puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom. Parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux. Parce que le vent éteint une petite flamme mais attise un grand feu. Parce qu'on s'est tant rapproché que nos souvenirs se ressemblent. Parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble. Parce que je sais que le lundi, je vais te parler et te voir. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. Parfois elle aime mes mots, mais cette fois c'est elle que mes mots aiment. Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème. Parce que je te chante sur tes manies, mais que je pourrais plus me passer d'elle. Parce que je me moque de tes défauts, mais qui me sont devenus essentiels. Parce qu'avant de te regarder partir, je te vois te maquiller dans le miroir. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce qu'on est libre quand on est fort et plus fort quand nos liens se soudent. Qu'une mauvaise passe devient alors moins profonde que le creux du coude. Parce que tous les nuages du monde n'empêchent pas les pleines lunes. Et qu'à chaque fois qu'elles brillent, c'est nos débuts qui se rallument. Parce que tu sais ce que j'aime, parce que je sais ce que tu veux. Et que c'est quand même une première fois dès qu'on est seuls tous les deux. Parce que 120 mois plus tard, je viens encore juste de te rencontrer. Parce que tu es mon plan A et que tu seras aussi mon plan B. Après 10 ans d'un beau voyage où je me rappelle de chaque seconde. Après 10 ans qui ont vu naître les 4 plus beaux yeux du monde. C'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. fois elle aime mes mots, mais cette fois c'est elle que mes mots aiment. Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème.
Retour en plateau, vous êtes bien sur Fréquence Mistral et nous continuons à travailler et à écouter ces élèves de la seconde bac vente du lycée des métiers Louis-Martin Brett à Manos qui ont travaillé sur les discriminations. Et ce sont des élèves qui ont travaillé avec Farida Mazoud, mais aussi avec Élodie Keller, que j'ai grand plaisir à accueillir. Bonjour Élodie.
Bonjour François.
Vous êtes documentaliste vous-même au lycée des métiers. C'est assez surprenant de travailler sur les discriminations. La presse, évidemment, c'est aussi votre domaine, mais travailler avec une classe sur les discriminations, ça a du sens ?
Tout à fait, puisque le professeur documentaliste est au cœur du cyberharcèlement. Donc notre mission, c'est aussi de leur enseigner le numérique et comment l'utiliser correctement et ne pas devenir des cyberharceleurs.
Et de se rendre compte qu'il peut y avoir des dangers à aller sur n'importe quel site ou à gober n'importe quoi.
Tout à fait, l'information, c'est très important de faire attention à ses sources, de connaître le phénomène des fake news, de ne pas être perméable à toutes les informations qu'on peut y trouver et à devenir des citoyens de demain. Donc ça fait partie des missions des professeurs documentalistes et en ce sens, j'ai pleinement ma place dans ce projet.
Et comment vous avez travaillé donc avec un professeur de français en duo ?
Donc avec Madame Mazoud et une autre collègue professeur documentaliste, nous sommes trois, nous avons travaillé à tous ces phénomènes. Donc ils sont venus régulièrement au CDI pour travailler sur ces séquences et les sensibiliser à toutes ces questions.
Vous avez aussi travaillé sur les métiers de la presse, puisque j'ai eu l'honneur de participer à une de ces rencontres. C'est positif ?
Tout à fait. Je pense que les élèves ont été très contents de cette rencontre. Et c'est important de voir, enfin de leur montrer à quel point la presse est importante dans notre pays. Et la liberté de la presse, c'est primordial. Et qu'il faut préserver cette liberté de la presse à tout prix.
Et là, en termes de citoyenne, de participer à une émission radio, c'est une nouveauté pour vous ?
C'est une grande première, oui, François.
En tout cas, c'est une belle chose. Et en même temps, pour nous aussi, c'est un grand plaisir de pouvoir recevoir des jeunes. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir la deuxième vague de ces jeunes qui sont en seconde bac vente. Et c'est Timothée qui est à nos côtés. Bonjour, Timothée.
Bonjour.
Alors, Timothée, toi, tu as préparé une réflexion sur les questions notamment de parité entre les hommes et les femmes, mais surtout les questions d'égalité salariale.
C'est sur l'inégalité salariale homme-femme en France en 2018. Donc je voulais commencer par qu'est-ce qu'une inégalité ? Donc une inégalité, c'est un désavantage, donc là, par rapport au salaire. Comme nous le savons, ce sont des femmes qui subissent l'inégalité au travail. Une partie des écarts de salaire entre les hommes et les femmes provient notamment des différences de caractéristiques liées au niveau de qualification, au diplôme, à l'expérience professionnelle, à l'ancienneté, à l'âge, au secteur d'activité et surtout au type d'employeur. En France, le salaire moyen annuel des femmes est de 24% inférieur à celui des hommes, tout niveau confondu, ce qui veut dire 17 800 € pour les femmes face à 23 400 € pour les hommes. Au niveau caractéristique professionnelle, donc ça veut dire au niveau... que les hommes et les femmes font le même travail. L'écart salarial s'élèverait à 8%, mais depuis 1995, cet écart est porté par une baisse non expliquée. Il y a un écart plus prononcé chez les diplômés et dans le secteur privé. En équivalent temps plein, ça veut dire que les hommes et les femmes font le même
nombre d'heures.
Exactement. Cet écart s'élève à 17%. En clair, dans l'Union européenne, quand un homme gagne 1 euro, une femme gagne seulement 84 centimes, d'après les chiffres compilés de l'Office européen de statistiques Eurostat. Avant d'en finir, je voulais parler du Festival de Cannes, où en ce moment, pas mal de personnes sont en train de pester un peu, parce que il y a des femmes donc connues, des stars, qui subissent cette inégalité.
Et pas uniquement les stars d'ailleurs, il y a les techniciennes. Il y a eu 82 femmes qui ont monté les marches il y a quelques jours à peine à Cannes pour réclamer justement une égalité de traitement avec les hommes. Il y a même des femmes qui demandent à certains artistes, à des hommes, de baisser leur rémunération pour voir un peu ce que ça fait que d'être traité à la même hauteur que les femmes. Et je pense que ça devrait avancer dans ce sens-là. Tu étais sensibilisé, toi, à cette question de la parité salariale ?
Ben, honnêtement, au début, pas plus
trop
que ça. Puis c'est en faisant mes recherches que je me suis investi dedans.
Tu trouves ça scandaleux ?
Oui.
On est d'accord.
Oui.
On est d'accord. Donc c'est bien, on va faire avancer les choses. Et je pense que les 82 canoises, on pourrait les appeler comme ça, il y avait des artistes du monde entier, mais aussi des femmes de l'ombre du cinéma qui étaient là, vont faire avancer les choses. On verra ça avec grand intérêt. Merci beaucoup, Timothée, de ta participation. C'est Emma maintenant qui va prendre le relais. Bonjour, Emma.
Bonjour.
Alors, Emma, elle a fait un travail assez étonnant. C'est qu'elle est allée interviewer, pas n'importe qui, elle est allée interviewer une footballeuse. Est-ce qu'on dit comme ça, ça se dit comme ça ?
Oui, ça se dit comme ça.
Donc une femme qui joue au football, et pas n'importe laquelle. Il s'agit de Nicole Habart, qui est une ancienne joueuse professionnelle. Quelle idée de faire l'interview d'une footballeuse, Emma ?
Eh bien, on voulait d'abord parler par rapport au sexisme, par rapport les femmes qui jouent au foot, parce que c'est pas forcément, c'est plus un stéréotype, je pense, que les femmes jouent au foot. Du coup, cette interview avec elle, ça a été intéressant de savoir qu'on pouvait parler de ça.
Est-ce qu'elle a été surprise quand tu lui as posé des questions sur ce sujet ?
Oui, un peu. Parce que je lui ai posé plutôt des questions par rapport au football féminin à la télé, qu'il n'était pas forcément visionné par rapport au football masculin.
Et puis leurs salaires ne sont pas du tout les mêmes par rapport aux hommes. Et puis tu as travaillé donc sur ces questions de stéréotypes aussi.
Oui. Eh bien, parce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs stéréotypes par rapport, exemple, les hommes coiffeurs, il y en a pas. C'est plutôt un stéréotype comme les femmes footballeuses, surtout les femmes sportives. On n'en entend pas beaucoup parler. Et là, c'était plutôt intéressant de voir que on pouvait assister à ça.
Et qu'on est quand même libre d'esprit de pouvoir jouer au football, au rugby, même si on est une femme. Donc c'est important. Toi-même, tu joues au football ?
Non, je joue au basket.
Au basket, mais c'est pareil. L'équipe de France féminine est de grande qualité aussi.
Oui.
Et bon, pas besoin de Tony Parker, hein, mais bon. Il y a d'autres joueuses de grand talent aussi chez les femmes. C'est un travail qui t'a plu, cette question, cette approche un peu particulière, plutôt que de travailler sur les résumés de textes ou les textes classiques ou les exercices scolaires classiques d'une classe de français ?
Eh bien oui, ça m'a intéressée parce que j'avais mon propre contact avec elle, je pouvais avoir une communication avec elle. Et puis cette interview m'a donné beaucoup plus confiance en moi de savoir que on est plutôt jugé parfois par rapport de faire un sport pas vraiment féminin. Et de là, ça m'a vraiment donné confiance en moi.
Cet exercice de style, l'interview que nous, on pratique quotidiennement, ça t'a plu ?
Oui.
Peut-être une journaliste, alors, en face de moi. Qui sait ? Qui sait ? En tout cas, c'est bien. Il y a de la curiosité et en même temps une volonté de faire avancer les choses en ce qui concerne la place de la femme et la place de l'homme aussi, ou les hommes, plutôt la femme et les hommes dans notre société. C'est intéressant de poser cette réflexion. Diana qui est à tes côtés. Bonjour Diana.
Bonjour.
Diana, tu as travaillé sur une thématique, ce sont les discriminations justement hommes-femmes. Pourquoi est-ce qu'on embauche un homme plutôt qu'une femme ou inversement ?
Il n'y a pas de raison spécifique pour... Enfin, je voudrais aussi parler du harcèlement sexuel.
Oui.
Je pense que c'est quelque chose qu'au moins une femme a... Enfin, qu'au moins toutes les femmes ont subi au moins une fois dans leur vie. Ça peut se passer dans la rue, à l'école, dans les transports en commun. Et je pense que c'est inconcevable en 2018 que... Ça existe encore.
Alors, il y a un projet de loi, hein, justement, tu le sais, qui est à l'étude, avec Marlène Schiappa, qui est la secrétaire d'État en charge de ces questions. Ton sentiment sur la loi, il faut faire respecter ce genre de choses. Il faut respecter les femmes, comme les hommes, d'ailleurs.
Oui, absolument, parce que la femme est égale à l'homme et elle devrait être traitée avec les mêmes droits.
Et c'est important qu'une lycéenne puisse s'intéresser à ces questions dans son école, dans son lycée.
Oui, vu qu'en étant moi-même une femme, enfin bientôt,
et bien... Non, je te rassure, on est femme.
Je pense que ça nous concerne toutes et pas que les femmes, même les hommes, parce que vous pouvez avoir une mère, une fille, une sœur, donc c'est très important.
Et c'est une société qui doit respecter les individus, quel que soit leur sexe. Diana, tu as travaillé avec tes collègues sur toutes ces questions de discrimination.
Oui.
Ça met une ambiance un peu particulière dans la classe de travailler sur ces sujets.
Non, je trouve qu'au contraire, ça nous informe plus.
Ben voilà, c'est ça ce que je voulais savoir. C'était cette ambiance un peu spéciale de travailler justement sur des sujets qui sont des sujets de société, pas des sujets scolaires, quoi.
Bah oui, ça nous concerne tous, vu que plus tard, même dans notre vie adulte, on va vivre dans ce monde.
C'est une bonne chose.
Oui.
On va faire une pause musicale. Je vais vous remercier tous les trois aussi. On va écouter Arnaud, qui est un chanteur belge magnifique. On va écouter les yeux de ma mère ou de sa mère, comme vous voulez. Et puis, on se retrouve après pour la conclusion de cette émission.
Je suis malade, elle est la reine du suppositoire. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours de lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours de lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours de lumière.
Très belle chanson d'Arnaud, Les yeux de ma mère. On se retrouve pour la conclusion de cette émission avec les enseignantes qui nous ont rejoints, Elodie Keller et Farida Mavzoud. Mais avant, la réaction d'un spectateur, Fernand, qui fait partie de cette équipe. Bonjour Fernand.
Bonjour.
Fernand, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation, entre guillemets, de tes camarades?
Ben moi, j'ai pensé qu'ils ont beaucoup travaillé sur le sujet.
Tu as travaillé toi aussi d'ailleurs?
Non, moi j'ai pas travaillé
pas
sur
trop,
ce sujet.
Pas trop, ouais. Est-ce que tu seras plus attentif aux questions de discrimination après cette émission et après ce travail?
Ben oui, bien sûr.
Par rapport à tout ce qui concerne les salaires hommes-femmes, le harcèlement, le cyberharcèlement, la place des handicapés, des choses comme ça?
Ben oui, mais comme y a beaucoup de gens qui font ça en ce moment, j'espère que cette radio va être beaucoup entendue pour que le harcèlement et tout ça, finisse par s'arrêter. Quoi.
Et toi, tu vas faire un effort aussi?
Ah ben moi, je vais faire un effort.
C'est bien, c'est ce qui est voulu, je pense, par les enseignants et c'est une bonne chose. Anaïs, qui a participé à un moment, Anaïs, qu'est-ce que tu as pensé de cette intervention en radio?
Ben, je trouve que c'est très justicieux par rapport à la discrimination pour savoir ce qu'on peut avoir si on le fait subir à une autre personne. Et après, par rapport à une expérience, par rapport à moi, je trouve que c'est une expérience bien pour savoir comment c'est quand on passe à la radio, comment on fait et... Voilà.
Donc c'est une expérience positive,
oui.
Et puis c'est vrai que vous allez passer certainement des oraux lorsque vous allez passer des examens,
oui.
Donc ça vous sera utile. Le travail sur les discriminations, ça t'a ouvert les yeux aussi, t'as plus pris conscience de ce qu'est les discriminations, de ce que sont les discriminations?
Oui, surtout sur certains points, ce qu'on pouvait subir et ce qu'après la personne en elle-même pouvait ressentir et... Par rapport aux recherches et tout ça, oui, ça m'a beaucoup apporté.
Positif aussi, Timothée, à côté, qui a déjà participé. Qu'est-ce que tu as pensé de cet exercice particulier?
J'ai bien aimé, puis c'est un bon entraînement pour l'oral.
Oui, c'est vrai, ça vous sera utile. Vous avez aussi bossé quand même en amont, hein, en classe et tout. Vous avez beaucoup discuté, je suppose, entre vous. Vous vous connaissez mieux, je pense, après cette cet effet spectaculaire et en même temps remarquable. Et le fait d'avoir fait une émission radio aussi, c'est pour toi une belle expérience?
Oui, oui.
Je pense que c'est la même pour tes enseignantes qui sont à côté, là, justement, Elodie et Farida. Vous avez découvert un petit peu, Farida, vos élèves dans ce travail, dans cette émission?
Oui, en quelque sorte, un peu, effectivement, puisque quand on entre dans le fond des choses, finalement, on se rend compte que la plupart d'entre eux ont été victimes à un moment donné de discrimination. Donc, ça prouve effectivement l'étendue du problème. Effectivement, j'ai pu en apprendre quand même beaucoup de choses, effectivement, les concernant.
Et puis, il y a aussi une dynamique de groupe qui s'est dessinée par rapport à ces questions, qui sont des questions délicates aussi.
Complètement. Alors, effectivement, ce genre de travail, ça permet effectivement de développer des compétences transversales, alors notamment celle du travail en équipe. Effectivement, il a fallu qu'on a divisé la classe en différents groupes et tel groupe a travaillé sur tel questionnement. Donc, effectivement, ça permet d'échanger beaucoup et de se connaître mieux. Comme Timothée l'a dit également, ça a permis de développer des capacités à l'oral. Et eux qui sont en deux bacs ventes, l'oral, la communication, c'est un point très très important.
Alors justement, ils vont se retrouver en situation dans un commerce, très certainement d'ici 2-3 ans, oui. Dans une grande surface ou dans une boutique, oui. Quelque part, je le souhaite en tout cas. Vous pensez que ce contact qu'on doit avoir avec les clients ou avec les fournisseurs, avec toutes les personnes qui gravitent autour du monde commercial, il peut s'acquérir justement par la parole, par le contact verbal?
Oui, complètement. C'est seulement l'échange humain qui peut faire qu'effectivement, il peut y avoir une réciprocité.
À vos côtés, Élodie Keller, qui, elle, s'occupe de tous les élèves du lycée professionnel. Là, Élodie, vous avez travaillé sur une vingtaine, trentaine d'élèves uniquement. Et donc, ça vous a permis de travailler plus en profondeur avec eux?
Alors, les professeurs documentalistes n'ont effectivement pas de classe à eux, mais interviennent sur toutes les classes.
C'est ce que je disais, hein.
Voilà. Et donc, cette classe que j'ai plus vue que les autres, ça nous a permis de créer un rapport un petit peu privilégié, un petit peu différent, même si je ne les connais pas autant qu'un professeur de lettres ou de mathématiques. Mais en même temps, je pense que maintenant, ils savent qu'il y a un professeur documentaliste, ils savent à quoi je sers, et ils reviendront volontiers s'ouvrir au monde et à la culture au CDI.
Et il y a beaucoup d'outils au CDI, notamment des outils numériques qui sont quelque part fabuleux, mais aussi dangereux.
C'est ça. Donc en fait, c'est aussi les éveiller au fait que ces outils peuvent être très très utiles et sont quand même leur avenir, puisqu'ils ont grandi avec et c'est leur quotidien. Mais que son téléphone portable, ça peut être un formidable outil, mais il faut aussi faire attention, ne pas en faire n'importe quoi, ne pas diffuser n'importe quoi, être responsable de son image et faire attention aux autres aussi, c'est-à-dire que on ne peut pas diffuser ce qu'on veut des autres. Donc je pense que voilà, ils savent que au CDI, ils trouveront maintenant des outils et des personnes pour les aider dans leur cheminement, dans leur recherche documentaire.
On arrive à la conclusion de cette émission. Ça a été un plaisir pour moi de travailler avec vous sur ces questions et puis de découvrir comme ça des jeunes qui ont bossé sur des questions de société. Et c'est vraiment l'avenir de notre pays, que de ne pas se rétrécir et d'être ouvert sur une société plus humaine et en même temps plus respectueuse, évidemment, les uns des autres, les unes des autres aussi. Il a beaucoup été question de parité dans cette émission. On va terminer avec un hommage avec un grand monsieur. C'est Farida qui m'a demandé de faire cet hommage. Et ça tombe bien parce que c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Et il nous a quittés il y a quelques temps. Il ne nous a pas vraiment quittés parce que franchement, il est toujours là. Il sera toujours là pendant très longtemps. Je vais remercier Amandine Xeri pour la régie. Merci beaucoup, Amandine. Puis merci à tous les élèves et les enseignants, bien sûr, qui sont là. On va écouter Jacques Higelin. Jacques Higelin et son fameux coup de foudre. Merci et à bientôt.
Merci, au revoir.
Merci et merci à toute l'équipe de Fréquence Mistral de nous avoir accueillis aujourd'hui.
C'était un plaisir.
Merci à vous, une bonne journée sur Fréquence Mistral.
Que la flèche de son regard moqueur s'est plantée dans le mien. Coup de foudre assassin en plein cœur.
m'envoie tout droit au septième ciel, où l'amour fou m'a donné rendez-vous, tout en haut de la tour Eiffel. Vertige amoureux, baisers qui s'envolent sur les ailes du vent, serments éternels gravés dans le bleu du ciel. C'est pas que je t'aime, 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 t'aime. C'est pas que je t'aime, 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 t'aime. Mais y'a de ça. Comme la petite boule bleue qui nuit et jour tourne autour du soleil. Jour et nuit, moi je veille sur les étoiles qui brillent dans tes yeux. Sans poser les pieds au sol, on peut faire tous les tours qu'on veut sur le grand manège amoureux qui nous emmène au septième ciel. Cheveux au vent, battant les ailes dans les courants ascensionnels. Le givre et le gel, la neige et la grêle fondent en pleurs devant nos aveux gravés dans le bleu du ciel. C'est pas que je t'aime, 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 t'aime. C'est pas que je t'aime, t'aime, t'aime.